Bonsoir Patrick Klein.
Bonsoir Dominique, bonsoir Gilles.
Propriétaire, bonsoir. D'abord bravo.
Merci.
Hasta la vista. Ouais. Gilles Barbarin, hasta la vista.
Oui, c'est...
Hasta la vista baby, c'est quel film?
C'est facile.
Pas pour lui, tout est difficile pour lui. Aucune culture cinématographique, Terminator. Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista baby.
Terminator, là.
Ouais. Et, éleveur de la Parisienne.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc propriétaire éleveur heureux.
Bah, de temps en temps, oui.
Et maintenant, vous avez pris un peu d'étoffe. Je le disais en préambule, vous êtes conseiller à la présidence de France Gallo. Vous êtes l'un des proches de Guillaume de Saint-Seine. Alors, on parle souvent lors d'un nouveau mandat, parce qu'on est quand même sur un mandat de... m'arrêter si je me trompe, un mandat de rupture. On sort d'une longue ère Bélinguier-Rothschild. Lorsqu'on est dans une période de rupture, on a coutume de dire les 100 premiers jours sont les plus importants. Vous, ça tombait mal parce que l'hiver, c'est pas exactement la saison du galop. Est-ce que vous vous êtes fixé, il y a déjà eu des mesures qui ont été prises, on va en parler. Est-ce que pour vous, ces 100 premiers jours ont été importants ou est-ce qu'ils sont pas exactement terminés?
Ces 100 premiers jours ont été très importants, mais que pourrais-je vous dire, c'est le début d'une transformation de l'institution. Très important, puisqu'on va parler du plan propriétaire, mais Guillaume de Saint-Seine avait indiqué clairement que les propriétaires étaient les principaux contributeurs de l'institution avec les parieurs. Et les premières mesures qui ont été décidées juste après l'élection du 12 décembre.
Des mesures qui étaient attendues et que... on va parler de la prime,
hein, oui,
puisqu'elle n'était pas versée dans sa totalité, que l'on a décriée à de nombreuses reprises dans cette émission, disant qu'il n'était pas normal qu'une prime qui était contractuelle, finalement, quelque part, c'est un contrat, la prime passée entre l'organisateur des courses et le propriétaire qui est censé la toucher. Sauf qu'à la fin de l'année, on vous donnait 86% de la prime, on vous disait...
On vous donnait
86% de la prime et on vous disait, à la fin de l'année... On verra si on peut vous donner les 14% restants.
Ah, mais le système était très pervers.
Non, mais à Radio Balance, on avait
c'était
même dit...
90% et on...
Oui, peu importe, j'avais même
non,
dit...
Non,
mettez-nous le prix de l'Arc de Triomphe avec une allocation de 50 millions d'euros et à la fin de la course, vous dites, on verra si on peut vous les donner. Mais c'est une course à 50 millions. C'était à peu près ça.
Oui, vous avez raison.
C'était pas honnête vis-à-vis des propriétaires.
Non, mais disons que ça avait un effet... Un effet très pervers et très, c'était un vrai irritant pour les propriétaires.
Et ça a été votre première mesure,
Non, ça a été la deuxième mesure. La première mesure a été de donner un coup de pouce justement sur cette prime propriétaire, puisque en fait, du fait des bons résultats des chevaux français en 23, comptablement, France Gallo n'aurait dû régler que 0,82% de compléments.
Et vous avez dit?
On a dit, c'est ridicule, le mandat va passer par une relance du propriétariat, donc donnons confiance aux propriétaires. Et donc, nous avons complété la prime, si mes souvenirs sont bons.
4%.
On
a eu 94%.
Donc vous êtes allé bien au-delà.
On est allé bien au-delà.
Et ça correspondait à une enveloppe d'1,5 million d'euros.
C'est-à-dire
qu'on est tombé sur la seule année où les chevaux français ont performé. Ce qui arrivera peut-être pas d'ici 10 ans,
oui,
et qui
n'est
pas arrivé.
Même quand on ne performait pas, on ne donnait pas toute la prime. Donc, quand même un souci.
Oui, Gilles, c'est vrai ce que vous dites, mais ça correspond aussi à une augmentation à l'entraînement de chevaux FR. Donc, il y a un effet quand même récurrent.
C'est combien d'argent tout
c'est
ça
2000, la mesure de complément a été de 2 millions et demi qui ont ruisselé sur les propriétaires, mais comme c'est la prime propriétaire qui ruisselle aussi sur les entraîneurs, sur les jockeys et sur le personnel de cours.
Donc la deuxième mesure, ça a été de dire ben maintenant...
deuxième mesure a été justement d'arrêter cette espèce de retenue qui était donc la prime propriétaire, de calculer une prime que nous réglons en même temps que l'allocation, l'encouragement.
Depuis le
1er mars, exactement. Je crois qu'on a remis à jour du 1er janvier au mois de février,
mars, oui, à peu près. Ouais.
Sur la base du calcul du complément de 23. Donc tout est à zéro maintenant, les propriétaires et ce qui est inscrit sur les programmes est payé aux propriétaires.
Voilà, de toute façon, avant
ça
on n'avait pas les 100%.
Ça s'appelle la sincérité.
On a 95%, c'est ça.
Ça dépend
les âges.
Bon,
les malchanceux, ce sont les 4 ans. Voilà.
Oui, les malchanceux. Enfin, les malchanceux,
mais
oui.
On sait que la prime, on l'a et elle n'est pas fluctuante.
Voilà, voilà, exactement. Voilà. C'est un effort de transparence, de confiance également, parce que cette mesure peut coûter de l'argent à France Gallo, hein, puisque c'est invariable, hein, c'est devenu une variable, cette mesure peut coûter de l'argent. Ça, on a donc investi sur l'avenir, contrairement au trot qui avait prévu une augmentation des encouragements et qui finalement a différé ces,
de trois mois,
peut-être de six, peut-être de neuf.
Alors j'ai eu Jean-Pierre Barjon tout à l'heure, il n'en sait rien.
Parce que les enjeux.
Alors attendez, pas tout en même temps. On me parle, le trot effectivement avait prévu d'augmenter les allocations au 1er mars, on a différé cela au 1er juillet. Et pas sûr, effectivement,
voilà,
qu'au 1er juillet, on augmente, on risque de reporter de trois mois. Parce qu'on va en parler, les chiffres sont mauvais, catastrophiques, pitoyables, médiocres, choisissez ce que vous voulez. Mais bon,
alors, terminons peut-être sur les propriétaires, Dominique.
Non, la deuxième mesure, la troisième, oui. Non, les propriétaires, on va revenir parce que c'est vraiment votre plan. Troisième mesure, ça a été la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Élie Hainaut, qu'on attend, je pense, à Thémis impatiemment.
Surtout le président,
oui,
l'attend impatiemment. Il arrive le 15 avril, mais enfin, il est déjà très au fait et se tient très au courant de tous les dossiers.
Avec un directeur général désormais délégué qui s'appelle Henri Pourré, que l'on salue.
Exactement,
je sais qu'il
salue.
Écoute, on est sur les 100 jours. Est-ce que c'est pour vous ces 100 jours s'arrêtent à ces trois mesures-là?
Non, pas du tout. Actuellement, nous sommes en train d'étudier un plan moyen terme sur la mandature. On attend donc qu'Élie Hainaut arrive le 15 avril et pour probablement le présenter au comité de juillet ou septembre ou octobre. Ce sera un plan qui fixera les objectifs chiffrés de la mandature.
Pour
les 4 ans à venir, une feuille de route pour tout le monde, pour les salariés de France Gallo, pour que tous les sociaux pros et propriétaires aient une idée de là où la gouvernance de France Gallo veut les amener.
Alors je le disais, il y avait en début de semaine un comité et le président directeur général du PMU, M. Richard Viel, et la directrice générale Emmanuelle Malcasse-Doublé sont venus voir le comité, exposer leur stratégie. On a appris ce jour-là que quand même, arrêtez-moi si je me trompe, on a revu à la baisse la contribution nette du PMU, enfin le résultat net du PMU. On annonçait.
Non, je vous arrête.
Non, on a dit que c'était
PMU,
pareil.
Le PMU s'est engagé
à
verser 851 millions. Il maintenait en fait sa contribution.
Alors comment
prévue.
On fait, Patrick, lorsqu'on a un chiffre d'affaires à moins 5 sur un budget? Je ne suis pas économiste, hein, je le répète. On est aujourd'hui sur une tendance depuis le 1er janvier à moins 5%. Le budget qui permettait de...
Un peu moins que ça, Dominique. On est plutôt sur moins 4 que moins 5.
On ne va pas pinailler.
Non, mais c'est les chiffres, juste.
Moins 4, moins 5, vous mettez là-dessus l'inflation. On ne va pas en parler, on ne va pas
se
fâcher.
Non, parlons pas de l'inflation.
Bon, lorsque j'ai un budget à moins 4 alors que la prévision
c'était
plus 2...
Non, ce n'est pas le budget, c'est la situation actuelle, moins 4.
Oui, mais le budget de la situation actuelle, c'était on était sur plus 2, donc un différentiel de
6. Oui.
Voilà. On l'a dit la semaine dernière dans Radio Balance, on perd à peu près 50 millions. Est-ce que le PMU a dans ses caves des machines à fabriquer des billets de banque de manière à, vaille que vaille, payer le résultat net promis alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous?
Alors, je vous confirme que le PMU n'est pas la banque centrale.
Bon.
Donc, pas
je le savais, mais je voulais m'en assurer parce que je lis quelquefois des trucs qui m'échappent.
Le PMU donc, s'est engagé à maintenir sa promesse de contribution. Je vais être forcément par rapport à ce que vous dites un peu l'avocat du PMU et
ils vont en avoir besoin parce que
c'est une rôle, c'est
ils
une
vont en avoir besoin parce que j'ai pas terminé.
C'est une rôle de situation pour moi. On est que le fin mars, donc le premier trimestre. Les choses peuvent changer. Ce qu'il
Bien
faut
sûr,
quand même
mais
dire,
tout peut changer,
Dominique.
Patrick.
Dominique, ce qu'il faut quand même dire.
Dans un sens comme dans l'autre.
Oui, ce qu'il faut quand même dire, c'est que conjoncturellement, la consommation en France a été catastrophique en janvier-février. Mmh. C'est une vérité, hein, quand vous prenez les chiffres des grandes surfaces, les chiffres de la FDJ, les chiffres de, d'à peu près tous les commerces se sont avérés très très mauvais. Je dois vous dire qu'il y a un petit frémissement en vérité. C'est très difficile aujourd'hui.
Il y a des morts qui bougent, hein.
Oui, frémissent. Même des enterrés qui bougent
oui,
encore.
C'est vrai.
Dominique, il y a eu des cas. Tout ça pour vous dire qu'on pourra, je pense, faire un point exact de la situation fin avril, puisque, en fait, de plus, à comparer actuellement, c'est devenu très compliqué, puisque le ramadan, comme vous le savez, est une période qui bouge.
Là, on est équidistant à peu près, on est revenu ramadan contre ramadan.
Oui, hein. Mais bon. Vous savez que le ramadan, en début de période de ramadan, il y a un plus fort taux d'abstentionnistes.
Moins 25.
Que après. Donc, on pourra comparer fin avril exactement et on saura fin avril où on en est. Maintenant.
Alors, je ne suis pas devin,
851
pas...
millions.
Ouais. Non, mais vous les prenez tout de suite, j'imagine bien.
Non, mais ce n'est pas le problème.
Je vous souhaite
qu'on les prenne ou qu'on ne les prenne pas. Ce n'est pas le problème qu'on les prenne. Ça va être difficile.
Ça va être difficile.
Il va falloir une reprise sérieuse des jeux tout au long du restant de l'année.
D'autant que, parlant des paris hippiques, on va avoir de la concurrence qui va arriver. On va avoir un euro qui va nous occuper pendant un mois. On sait que lorsqu'il y a du football face au Paris Pic, c'est extrêmement compliqué.
Alors, Oui, c'est vrai, mais
Il n'y en avait pas l'année dernière.
Non, mais c'est prévu dans la prévision de budget du PMU. Ce qui n'est pas prévu, parce que c'est pas arrivé depuis très très longtemps, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques n'avaient pas d'effet négatif.
La dernière fois, Gilles, c'était en 1900, vous y étiez ?
Oui, oui, j'ai 24. Un très bon souvenir d'ailleurs.
1924 ?
Je pense, non ?
Bon, ça fait très longtemps en tout cas. Gilles, est-ce que les gens ont moins joué ces années-là, lors des premiers Jeux Olympiques à Paris ?
Écoutez, moi, je ne jouais pas beaucoup à cette époque-là.
Donc,
je me suis rattrapé.
On peut avoir un effet Jeux Olympiques également négatif. Que vous dire d'autre ? On prie ?
On prie. Est-ce que les personnalités du PMI que vous avez reçues lundi étaient... parce qu'on a quand même l'impression d'un décalage profond entre le ressenti que nous avons, nous, parieurs du jeu hippique. On pense qu'on est dans une situation de dépression assez grave.
Du jeu hippique ou du pari hippique ?
Du pari hippique.
Parce que maintenant, vous savez qu'il y a...
Je parle du pari hippique. Le jeu hippique, où on nous promet 1 milliard d'enjeux supplémentaires, on n'y est pas encore. Hein, pour le moment, le Sénat a voté en faveur. Il n'y a pas de vote de l'Assemblée nationale.
Non, le Sénat, pour être précis, le Sénat a voté en faveur, mais c'est passé à l'Assemblée nationale et le texte a été retiré par le gouvernement.
Voilà. Bon, vous avez, il y a quand même un souci. Et c'est ça qu'on vous vend comme la poche de croissance.
Moi, on ne me vend rien.
Hein. Ah, non, je sais bien qu'on ne vous vend rien. Mais ces gens-là, lorsqu'ils vous ont parlé du pari, ils étaient extrêmement optimistes. Ça ira mieux demain ou tout va très bien. C'est quoi l'état d'esprit ?
Ils m'ont paru déterminés.
Oui, ben c'est ouais.
pas forcément optimistes. Pour une fois, la réalité des chiffres a été tout à fait transparente par rapport au comité. Moi, j'étais un peu étonné que la contribution il se réengageait à 851 millions. Je pense qu'une interrogation ou une revoyure fin avril aurait été peut-être plus
judicieuse.
Plus judicieuse, oui. Mais bon, vous savez, on a une très grosse dépendance par rapport au PMU, Dominique.
On est dépendant que du PMU.
Pratiquement que du PMU. Donc il faut croiser les doigts pour que l'année se fasse à peu près normalement. Maintenant, le PMU a certains leviers qu'ils ont déjà activés
comme
d'économie en vérité, et ils vont trouver quelques millions à droite à gauche. Donc même si vous faites un ratio pour les sociétés mères, ce ne sera pas 851 moins 50 millions, mais 805. Si jamais le PMU ne tenait pas son chiffre, ce serait pas...
Ce que l'on a appris avec la digitalisation de l'économie, c'est que le monde digital demande beaucoup d'investissements. lorsque vous parlez de coupes budgétaires en termes de masse salariale, ça risque aussi de se retrouver dans l'investissement. Lorsqu'un opérateur n'investit plus, il perd des parts de marché. Et j'ai quand même l'impression, pour prendre une expression que je déteste, qu'on va droit dans le mur en klaxonnant. Aujourd'hui, si le PMU n'est plus capable d'investir dans son outil informatique pour gagner des parts de marché, il risque d'en perdre demain. Et effectivement, on peut...
Dominique, je peux que partager votre point de vue là-dessus.
Est-ce que ces questions-là ont été posées au comité, par les membres du comité ?
Si vous voulez, c'est pas tout à fait nouveau, parce que ça a été un peu la trajectoire des paris sportifs, en vérité, puisqu'on ne les a pas abandonnés, mais on a abandonné toute promotion des paris sportifs, et on est passé de 25% de parts de marché à 2,5%. Et l'année d'après, comme je l'ai dit pendant la campagne, les opérateurs de paris sportifs devenaient profitables. Ça a été ce qu'on a... Moi, j'ai appelé ça la jacquardisation de l'institution des courses. Parce que France Gallo, à mon sens, n'aurait pas dû laisser Cyril Linette... En liberté totale comme il l'a fait, qui a utilisé des outils court-termistes en fait pour ramener du chiffre aux sociétés mères, mais au mépris de l'avenir en fait.
La question que je vous posais est assez simple. On a vu et je vais tout de suite vous dire pourquoi je vous la pose. J'ai appris avant votre comité, avant votre conseil d'administration à France Gallo, il y a eu conseil d'administration du PMU où il a été décidé d'augmenter Madame Malkaz doublée. On parle d'une augmentation de salaire. D'aucuns diront c'est un réajustement. En tout cas, on va lui donner un peu plus d'argent. Situation qui n'a pas le contrôleur d'État, qui est membre de droit du conseil d'administration, n'a pas voté en faveur de cette augmentation. Est-ce à dire qu'il y a du tirage entre l'institution des courses et l'État ?
Écoutez, Dominique, moi, je ne suis pas au courant de l'augmentation.
Je sais que vous n'êtes pas au conseil d'administration
du PMU.
Je suis ravi de vous l'apprendre.
Oui, donc je ne peux pas commenter quelque chose dont je ne suis pas.
On a vu votre président Guillaume de Saint-Seine avec... Jean-Pierre Barjon se rendre à Bercy, c'était il y a un mois de cela. Vous avez vu ça ou pas ?
Vous voulez dire à l'agriculture d'abord.
À l'agriculture
à Bercy après, oui, tout à fait.
Les deux présidents. Concrètement, pour parler de quoi ? C'était juste pour prendre langue, d'avoir les deux présidents, de voir quelles sont les personnes, les directeurs qui gèrent les courses. Oui, c'était quoi l'idée ? Il y a une communication qui a été faite conjointement par le TRO et France Gallo.
L'idée était de que l'institution des courses ne parle que d'une seule parole. Les sujets évoqués ont été la TVA, enfin un peu les serpents de mer qui traînent la TVA, les paris hippiques,
jeux hippiques.
Pardon.
Alors justement, ces messieurs de Bercy et de l'agriculture, par rapport aux jeux hippiques, ils sont attentifs à cela ? C'est quelque chose qu'ils sont prêts à... A priori, si le gouvernement a retiré son texte, pas au moment où on se parle. Mais est-ce qu'ils sont prêts à y revenir ?
Il me semble qu'ils sont prêts à l'étudier, à le réétudier.
Ça va vous plaire, Gilles, hein, les jeux hippiques, c'est un peu des jeux à gratter, mais...
c'est du jeu à gratter.
Version PMU, hein.
Bah oui, moi, c'est tout ce que j'exècre. Oui, voilà.
Parce que, toi,
ton truc, c'est les 15 de valeur. Voilà, 16. Toi, t'es contre le PIC 5 des Médènes de 3 ans.
Non, je suis
contre, t'as tout faux, voilà, tu vas dans ce sens-là.
Je serais peut-être un client des jeux hippiques, c'est ce que veut dire Gilles Barbarin. Voilà.
Oui, mais bon, les jeux hippiques ne vont pas nous sauver l'institution. Alors, il faut savoir que c'est un peu un pis-aller, parce que si on prend 1 ou 2% de part de marché à la Française des Jeux, qui fait 22 milliards d'enjeux, soit en paris hippique à peu près la moitié, 11 milliards, on arrivait, déjà si c'était admis et régularisé par l'État, ça veut dire il faudrait une loi, parce qu'il y a une loi PACTE qui a donné l'exclusivité pendant, je crois, 25 ans
à la
Française des Jeux sur les jeux de loterie et de hasard, donc il faut une nouvelle loi. Si celle-là, si par hasard, ou pas hasard d'ailleurs, on était en droit d'émettre des tickets de grattage de jeux hippiques, si on arrivait à prendre 2 ou 3% de part de marché de la Française des Jeux, ce serait le bout du monde. Parce qu'il faut, on s'adresse quand même à des gens qui sont des grands spécialistes, qui ont des équipes de création de jeux de grattage qui sont exceptionnelles. Mmh. Donc 2 ou 3 millions, vous pouvez calculer ce que ça peut faire. Donc ça ne va pas non plus changer beaucoup la face du PMU en vérité. Je pense qu'il y a d'autres... Le PMU sera un sujet central de la mandature. Il faut y réfléchir. Il faut réfléchir le PMU dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans.
Moi, je voudrais revenir sur un point. Le PMU dit « Faites-moi de belles courses, je vous ferai de bons enjeux ». Quand je regarde les handicaps de 3 ans actuellement en plat, j'ai 4 partants à Lyon-la-Soie l'autre jour, j'en ai 6 à Senones. J'ai un handicap divisé à Chantilly qui a réuni 23 partants en 2 épreuves. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Où sont les chevaux? Où sont les chevaux? Est-ce que... Que font les entraîneurs? Ils ne veulent pas de course à Deauville, ils les veulent à Chantilly, à la maison. Il n'y a pas de partant. Sauf dans les handicaps de vieux chevaux. Ou... Voilà, mais ce n'est pas ça qui fait rêver quand même. Ce n'est pas ça qui fait rêver un propriétaire. Vous savez ce que c'est d'être propriétaire? Combien il faut, en fonction de la région, pour faire coup nul dans une année d'allocation? Il en faut entre 35 000 et 45 000.
Oui, à peu près, je pense.
À peu près, voilà, en fonction des régions, en fonction des pensions des entraîneurs. Je suis inquiet, moi, sur le nombre de chevaux à l'entraînement, sur le...
Bon, alors, voilà. Gilles, le nombre de chevaux à l'entraînement l'année dernière a baissé, tout le monde le sait.
Oui.
Alors, depuis 2 mois, il semble qu'on retrouve à peu près les niveaux, en tout cas, les courbes... dirait qu'on retrouve le niveau de 2023-2022.
Dans les 3 ans, je parle de la génération des 3 ans. Là.
Mais maintenant, que font les entraîneurs? C'est une question, bah, il faut leur poser. Hein,
On ne sait pas, mais c'est tous les
ans. J'étais très étonné parce que Hasta la Vista, avant le général
de Rougemont,
c'est l'obstacle.
Hasta la Vista, baby, Gilles.
On a couru le handicap Quintet, donc 3 semaines avant, qui était très bien doté, il y a eu 28 engagés.
Ah oui, donc ça, c'est l'obstacle.
28,
je 4
ans.
Du plat, oui.
Oui, mais le plat, c'est probablement pareil.
Enfin, cela dit, en obstacle, il y a trop de courses pour pas assez de chevaux. Donc, on peut tourner le truc comme on veut. Ça va pas
aller. Tiens. Voilà. L'obstacle, il y a trop de courses pour pas assez de chevaux.
Bah, bien sûr.
Le grand chantier de la mandature de Guillaume de Saint-Seine, c'est l'obstacle.
C'est un des grands chantiers.
C'est peut-être le plus important quand même.
Important la saisonnalité des courses d'obstacles. Parce que quand tu parlais tout à l'heure, parlais de l'hiver, c'est pas le. Ben, l'hiver, on va y venir, ça va être les courses d'obstacles l'hiver, en concurrence avec le trot. Autrement, on est mort.
Comment on fait pour sauver l'obstacle français
Sur la saisonnalité des courses d'obstacles, il y a un groupe de travail qui donc s'est mis au travail il y a 3 semaines. L'objectif. C'est de préserver les effectifs parce que, comme vous le savez, et Gilles en particulier, je me souviens quand je suis venu au mois d'octobre, qui avait énuméré les partants de la grande course de haies et du grand steep
de mai 2023.
23, exactement.
Regardez ceux qui sont vivants. Hein.
Exactement.
Déjà, on a reperdu Rosario Baron depuis.
L'objectif, c'est de préserver nos effectifs. On ne connaît pas exactement, mais on y travaille. De savoir le nombre de chevaux qui sont d'obstacles, j'entends, qui sont sur la touche parce qu'ils sont blessés, mais c'est très important.
Mais il y a.
La saisonnalité, c'est quand même. L'objectif, c'est que les courses, en particulier à Auteuil, aillent moins vite, parce que quand même la vitesse est l'ennemi des jambes des chevaux.
Ah, là, vous avez fait un ami. Là.
Non, mais ce n'est pas un ami, c'est une vérité.
Et c'est comme c'est une vérité que le terrain d'Auteuil est le moins lourd de la région parisienne. Vous avez terrain affiché pour dimanche 4-6, vous avez terrain affiché pour lundi Saint-Cloud, 5-6.
On va courir à Saint-Cloud, du coup.
Entre deux, il y a Chantilly qui doit être à 4-9. Encore, ce n'était pas actualisé. Excusez-moi, ça va peut-être venir avant les courses. Mais bon.
Gilles, Auteuil a été extrêmement, trop bien drainé. Oui. Et Saint-Cloud ne boit pas. Donc là, on est dans les extrêmes.
Bah, oui.
Mais
je voudrais connaître le terrain de Longchamp. Tiens, ça.
Mais aussi, il est sûr que quand on court à Auteuil avec des réductions kilométriques, de 1,08, 1,09. Ça fait une très grosse différence avec une 15 comme on a couru depuis 15 jours.
Mais voilà, mais là, donc, vous avez...
Pardon.
Excusez-moi, mais vous avez couru à la Vista, je crois que c'était une 15.
C'était une 15,
oui. Une 15, et la course de, Losange Bleu sur 3009 plus long. Hein. Une 14. Voilà, mais une 14.
Non, mais ça fait une grosse différence.
Ça fait une grosse différence, mais je veux dire...
C'est-à-dire que les chevaux prennent beaucoup moins cher, quand même, quand ils courent en une 15 que...
Mais heureusement qu'il était tombé des cordes, hein. Oui, heureusement qu'il était tombé des cordes.
Autrement,
parce que dans 15 jours, quand il ne va plus pleuvoir, vous allez arroser toutes les semaines à Auteuil. Vous allez arroser. Dit arrosage dit inégalité avec le vent. Hop. Ouais.
Non, mais bien sûr. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de...
La saisonnalité, c'est un vrai chantier.
C'est un vrai chantier qui va quand même tenir compte de quel hippodrome, quel terrain, et de ne pas non plus être dogmatique. Je veux dire, sur le programme de PMHDT, il y a des hippodromes qui sont des tourniquets où ça va très doucement.
Enfin, je parlais d'Auteuil.
Oui, mais moi aussi. Mais je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans les régions, justement sur ce groupe de travail saisonnalité, qui ont l'impression que ça va être dogmatique et que France Gallo va décider de ne plus courir après le 31 mai et qu'on reprendra le 1er octobre. On va le faire avec beaucoup de précautions. On ne va faire mourir personne économiquement, j'entends, parce qu'il y a des entraîneurs et des propriétaires qui vivent de ces courses PMH l'été. Donc,
D'Auteuil.
Oui, mais moi aussi. Oui. Je parlais, en fait, Gilles, on parlait de Auteuil, Compiègne, des premiums, là où ça va vite, parce que Compiègne, ça va vite aussi. Les jockeys ne reprennent pas beaucoup et les chevaux prennent dur. Donc, plus les terrains sont rapides, plus les chevaux prennent dur et plus les carrières vont être courtes. Alors ça, c'est un groupe de travail saisonnalité donc, qui est aujourd'hui les opérationnels de France Gallo que vous connaissez d'Obstacle, plus Frédéric Landon qui est le président de l'Obstacle, plus moi-même, qu'on va élargir une fois qu'on aura probablement deux projets et qu'on soumettra au conseil de l'Obstacle dans un premier temps. Ça, c'est le programme saisonnalité. Après, essayer de relancer les courses d'obstacles en analysant toutes les datas qu'on puisse trouver soit au PMU, soit à France Gallo, pour essayer justement d'optimiser cet écart qui existe, parce qu'il existe, on ne peut pas être dans le déni, il existe un vrai écart sur l'enjeu moyen, sur à peu près tous les jeux, qui est à peu près d'une quinzaine de pourcents. Donc, essayer de comprendre...
C'est-à-dire qu'on joue moins sur les courses d'obstacles que sur les courses de plat.
Absolument, à part temps égal, oui. Sauf, très très étrangement, le quintet. Le quintet, le jeu qui surperforme en obstacle.
Parce que le quintet, vous dira Gilles Barbarin, c'est pour beaucoup un jeu de numéro.
Oh. Oui,
voilà. Et on a les clients du quintet. Il y a une la clientèle qui joue à tous les quintets.
Donc, excusez-moi, termine. Oui. Donc... il y a ce groupe donc, d'analyse de data. Une fois qu'on aura fini de collecter les data du PMU, et je dois dire que le PMU a été très, très, très efficace pour nous fournir les data. On attend des data de France Gallo maintenant. On va les croiser. On va élargir le groupe de travail pour essayer de trouver des outils pour optimiser. On ne va pas faire la révolution, mais c'est une affaire de 10 ou 15% de masse d'enjeu. Comprendre pourquoi les gens ne jouent plus en obstacle, ça c'est un vrai souci.
Est-ce que les quintets, c'est intéressant ce que vous dites, moins 15 de différentiel par rapport au plat.
Ça c'est les courses ordinaires.
Sur les courses obstacles, les courses normales, mais le quintet se maintient. Pourtant, il y a des voix qui s'élèvent contre le fait qu'il y a trop de quintets en obstacle. Est-ce que les quintets d'obstacle, on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, Jean Dindy, alors vice-président en charge de l'obstacle, avait rendu de mémoire deux quintets remplacé par des quintets de plat, est-ce qu'on peut, on peut craindre le fait que des quintets d'obstacles demain disparaissent au profit d'autres quintets de plat ou de trot
Dominique, j'entends des voix.
Moi aussi.
Je ne sais pas d'où elles viennent.
Moi non plus.
Mais j'entends des voix. Ces voix devraient regarder les chiffres. Juste, je vais vous citer les chiffres que j'ai pris sur les quintets d'Auteuil en 2023. Moyenne 7 159.
Le week-end ou la semaine ou...
C'est tout mélangé, Gilles. Quintet Longchamp, Saint-Cloud-Auville, 6 945. Quintet Vincennes, 7 017. Ça tient à peu près la route. Et quintet autre que Auteuil, parce que comme le dit Gilles, il faudrait retraiter ça pour connaître le jour du quintet. C'est vrai qu'Auteuil surperforme peut-être un peu les quintets car il y a moins... Et on a perdu un événement, Dominique, pour être précis. Surperforme parce que c'est plutôt des samedis, des dimanches. Mais quintet autre que Auteuil, 5,8 millions. Mmh. Autre que Longchamp, 6,32 millions. Et autre que Vincennes, 6,087 millions. Donc le quintet... Le
pas quintet, sujet.
Pour moi, ce n'est pas un sujet.
D'accord.
Ce n'est pas un sujet, d'autant plus que... je suis désolé, dans une famille, quand on a un enfant qui a une moins bonne note que d'autres, peut-être qu'il faut l'aider, essayer de comprendre pourquoi il a des moins bonnes notes,
on évite d'aller
plutôt
noyer.
Que de lui tirer une balle dans la tête.
De toute façon, il n'y a pas de problème, puisqu'on est aux deux tiers, un tiers, même si ce n'est pas inscrit dans le marbre.
Voilà un sujet abordé avec Patrick.
Donc, voilà, donc
on peut parler aussi de la parité.
Ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que les enjeux soient maximum. Je veux dire qu'il soit en plat, en obstacle ou quoi, ou en obstacle en plat, peu importe. Mais
Gilles, alors là, merci. Ouais, j'admire parce que c'est tout à fait comme ça.
Vous êtes le seul à l'admirer. Hein. Mais bon,
voilà. Écoutez,
pas pour longtemps.
Pas pour longtemps peut-être. Ah bon, il va y avoir une question terrible.
Non,
je plaisante.
Après, je vais poser une question après.
Oui. Le deux tiers un tiers, le président actuel s'est engagé à le maintenir. On s'engage à la fin de la mandature à inverser les courbes. Courbe du nombre de chevaux à l'entraînement, du nombre de partants et courbe de la contribution aux enjeux. On va tout faire pour l'inverser. On n'a pas le choix que de réussir. Parce que malheureusement, comme le dit Gilles, enfin malheureusement, heureusement, comme le dit Gilles, on vit dans le deux tiers, un tiers. Aujourd'hui, s'il n'existait plus de tiers un tiers, si on imaginait qu'on pouvait s'en sortir avec le 75-25, ce serait la fin des courses d'obstacles.
Mmh. 75-25, ouais. Deux tiers un tiers, c'est 66% voilà. Des allocations sur les courses de plat, 33-34% sur les courses d'obstacles.
Non, je vais quand même.
Deux tiers un tiers.
Dire
oui.
Que
Auteuil, j'ai posé ensuite une question sur la parité voilà, avec le trot.
Auteuil, c'est quand même la vitrine des courses d'obstacles. Auteuil, le samedi ou le dimanche, c'est quand même 650 000, voire 700 000, voire 750 000 d'allocations qui sont distribuées dans une réunion, sachant que toutes les courses d'obstacles ont à Auteuil cette allocation. C'est énorme. Alors on me dit, oui, il n'y a pas la prime. Enfin, bon, il n'y a pas la prime, sauf pour les femelles, qui est de 15%. Il n'y a pas la prime. Mais quand vous avez, même sans prime, vous avez une allocation qui est égale à une simple course, qui est égale au montant de l'allocation d'une liste non plat, il y a oui, quand alors, même un décalage. Hein. Moi, je regarde par cheval des petits chevaux qui ont 60 000, 70 000 d'allocation en obstacle.
Gilles,
c'est pas mal. Hein,
Gilles, je voudrais juste...
les chevaux qui courent à réclamer, notamment
dimanche.
Ça me gêne
et ça me fait peur de vous contredire. Mais
non, vous pouvez.
Juste une stat qui est l'espérance de gain moyen par cheval ayant couru dans l'année, elle est inférieure...
Je parlais à Auteuil. Hein.
Ah, pardon, je parlais en obstacle. Elle est légèrement inférieure à l'espérance de gain en plat. Donc les gens qui disent qu'il y a trop d'allocations en obstacle, ils sont dans l'erreur...
J'ai pas dit qu'il y avait trop d'allocations. Je constate qu'il y a... Je mentionne le montant des allocations du samedi, du dimanche, 600, 650, 700, 750 000, plus les surprimes.
Il y a de très belles allocations à Auteuil, voilà. j'en conviens.
Combien a gagné à Stala Vista depuis le début de l'année en obstacle, par exemple ?
75 000 euros, quelque chose comme ça.
Aller gagner 75 000 euros en plat déjà en 3 mois.
Oui, mais Gilles, Hasta la Vista, il a 4 ans. Il n'a pas gagné un euro avant.
Il y a, il y a la prime de risque, bien évidemment. On n'est pas sur la même économie d'élevage.
C'est pas... je dis simplement...
Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. On parlait du 2/3, mais qui vous concerne 2/3, c'est formule interne au galop. Après qu'on revienne sur la parité, des bruits se font entendre avec le trot qui demanderait à ce qu'on en cesse avec la parité et qu'on soit à une redistribution par rapport aux enjeux réels. Vous avez entendu parler de ça.
J'entends les mêmes bruits que vous.
Bon,
parce que les gens jouent au trot. C'est nouveau, ça.
Les gens jouent plus au trot qu'au galop.
Ils sont complètement... On est sur, quand je vois des rapports 49-51, les bonus, à peu bonus près, 3, à bonus
avec,
4...
Avec quand même une balance qui tire vers le trot. On va pas se voiler la face.
Oui. C'est plutôt 51-49. Bon. 51, le trot.
Et le trot, il faut les comprendre. Ils disent, on va en finir avec la parité. Maintenant, ce sera...
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le trot... si jamais ils voulaient en finir avec la parité, il faudrait revoir le programme total parce qu'ils ont, été avantagés au niveau des slots de meilleurs horaires. Donc il faudrait tout remettre à plat en vérité. Le trot a fait un très mauvais meeting d'hiver.
On n'a qu'à mettre 20 scènes à 10h du matin et ça va aller mieux.
Voilà, oui, comme dit.
Ça va aller mieux.
Donc, écoutez, moi, il me semble que ce n'est pas souhaitable. Mais si on en arrivait là, il va falloir tout remettre à plat, en vérité. Je rappelle quand même que le 50-50 était... à l'époque, il y avait un léger surplus du trot. C'était parce qu'en fait, nos gazons, nos hippodromes, etc., ont beaucoup plus d'entretien et beaucoup plus de frais d'entretien que les pistes en mâche fer de Vincennes ou d'ailleurs.
Qui s'occupe de garder Vincennes déjà. Et
moi, je pense que le trot, au lieu de si jamais il réfléchissait à la fin de la parité, il ferait mieux de réfléchir pour remonter du résultat à ce qu'on pourrait partager avec eux, le galop, avec le trot, les services communs.
Là, vous m'intéressez, voilà, les services communs, la mutualisation des services.
Voilà, je pense que ce serait plus intéressant et ce serait plus positif. Bah,
ça vous intéresserait peut-être au niveau de la DRH, parce que j'ai appris que vous perdiez votre DRH.
Bah, on l'a appris au comité, oui, tout à fait. Bernard Hopitz s'en va.
Oui.
Voilà.
D'accord.
On en cherche un nouveau, je pense.
Voilà, si vous sentez une âme de DRH, vous pouvez envoyer votre CV à M. Guillaume de Saint-Saëns. Pour revenir à des choses plus sérieuses, on parlait des quintés, pas question d'en supprimer. En revanche, lorsqu'on regarde les courses, chacun reconnaîtra autour de cette table que les lots sont creux. Est-ce que dans les mesures visant à redynamiser l'obstacle, on peut arriver à supprimer des courses et beaucoup de courses de manière... à replumer l'oiseau obstacle.
Écoutez, Dominique,
on a vu la réunion de ce vendredi. Bah oui, ce vendredi à Compiègne, j'ai 7 partants de moyenne.
Excusez-moi, j'ai fait l'autre jour une démonstration. Je veux dire, les courses creuses, elles existent.
Et je posais la question à Patrick. Donc, hein.
Non, mais bon. je vais répondre d'abord et puis Patrick va rebondir là-dessus.
Il est terrible.
Non, mais je veux dire, les courses creuses, elles existent. Il y a des jeux qui existent pour ces courses creuses, donc faites de la pub pour les jeux de ces courses creuses, et puis point barre, voilà, c'est tout. Je veux dire, faites jouer les gens, dites-leur qu'il y a des jumelés hordes, il y a des trios hordes, il y a des super cartes, et voilà, il y a des jeux intéressants.
Alors,
là, vous allez, aujourd'hui, il y avait encore à Compiègne, c'était à Compiègne, là,
oui,
ou à
Compiègne,
Fontainebleau, je ne sais plus.
Compiègne.
Ils ont monté les deux miches.
Les miches et les
vous
favoris,
faisiez 2 plus 3, ça faisait 210 contre 1, le Super 4. Mais vous dites, les gens, mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais ils sont, voilà. Ben, monsieur Vielle, monsieur, comment elle s'appelle, Malacaze?
Madame Malcaz,
je serais mort presque, j'aurais toujours pas son nom. Mais ils disent, les courses à peu de partants, c'est trop facile. Mais trop facile de quoi? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent.
C'est...
Donc, il faudrait leur apprendre.
Gilles, c'est très paradoxal parce que, en fait, le PMU vit du recyclage. Donc, si c'est trop facile, au contraire...
Bravo le trot, là, pour ça, ils sont forts. Hein, là, le GNT, vas-y, un 10, un 20...
Il y a plus de recyclage. Donc, on peut pas dire tout et son contraire. Maintenant, concernant le Super 4 dont parle Gilles, c'est un jeu formidable.
Mais il y a le trio ordre aussi qui est très bien, le jumelé ordre aussi.
Et qui mérite d'être mis en avant. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques par jeu depuis une dizaine, depuis 2018, le jeu qui a le plus progressé et de très très loin, c'est le Super 4, même s'il n'atteint pas des montants suffisants, mais c'est le jeu qui a les montants du doublé ou triplé sur le Super 4.
Et pourtant, aucune publicité n'est faite sur ce jeu-là.
Donc, je pense, comme Gilles, qu'il y aurait peut-être des jeux, en tout cas, mettre déjà ceux qui existent en valeur, ce qui coûte pas grand-chose, pour essayer de sauver le bateau PMU, entre guillemets.
Oui, il suffit que Manuel Jolivet ou Laurent Brunto disent, ou Hervé Engel disent...
Moi, je pense que ça devrait être Gilles Barbarin qui devrait expliquer le Super 4.
Moi, j'ai plus l'âge pour ça.
Comment ça va, l'âge de César Thé, hein.
J'ai fait une démonstration l'autre jour et j'ai même donné un cours à...
Gilles est né sous René Coty. Oui. Hein. Ouais. N'oubliez pas, hein, c'est loin. Hein.
C'est important, l'expérience.
Il a vu, il a joué.
À nos âges,
il
Dominique,
a joué,
l'expérience, c'est très valorisant.
Il a joué au premier tiercé.
Alors moi, je vais poser une question qui va faire le lien avec le côté propriétaire. Après, je suis prêt à investir dans un cheval d'obstacle. Comment je fais ? J'ai pas un gros budget. Comment je fais pour acheter un cheval d'obstacle ? Comment je fais ?
Comment ça
je veux acheter un cheval d'obstacle, comment je fais ?
Vous avez 50 solutions. Hein,
ouais. Alors oui, alors dites-moi, donnez-moi une ou deux.
Vous achetez à réclamer, vous appelez les entraîneurs et vous prenez une part dans un cheval qu'ils ont, ou vous appelez un éleveur du centre, Jacques ici, Thierry ici, près,
ouais,
Nicolas
Dagenet. Alors là, je vais avoir tous ceux dont les Anglais n'ont pas voulu. Et je vais avoir, là, vous m'avez
les Anglais n'ont pas toujours bon. Hein. Tiens, justement, plutôt que d'aller je vais aller vendre mes chevaux en Angleterre.
Monsieur Cyprès, il est capable de m'attaquer pour dire j'ai fait une bonne affaire si je gagne l'argent.
Est-ce qu'il fait partie de vos plans, Patrick Klein, est-ce qu'il fait partie de vos plans d'aller draguer les propriétaires irlandais, anglais, pour faire venir...
Bien sûr.
Faire venir, draguer, c'est pas venir courir, et puis super, mais comme on le fait... Si on veut faire venir un gros joueur dans un casino...
C'est une idée évidemment extrêmement séduisante. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour les faire venir.
Parce que c'est plus rapide d'aller de venir d'Angleterre à Auteuil que pour certains de partir à Cannes-sur-Mer, hein, en termes de temps.
Non, mais en plus, si vous voulez faire venir les propriétaires anglais irlandais
en
France.
Oui, et leurs chevaux.
Entraînement en France.
Oui, faire courir faire entraîner.
L'expérience de Noël Georges en France prouve bien que les propriétaires anglo-irlandais sont plus à même et plus volontaires de mettre des chevaux en France quand ils ont un entraîneur de la même culture qu'eux. C'est une vérité. Mais on a parlé, le président a parlé justement avec le père de
Noël Georges.
De Noël Georges, ouais. Pour essayer de comprendre.
Don George.
Pour essayer de comprendre.
Merci, Samy.
Comment ça s'était engagé entre. Et pourquoi les propriétaires anglais et irlandais ? En fait, il expliquait que c'était assez spécial parce que lui était en Angleterre, son fils était en France. Disons que c'était un cas particulier. Mmh. Donc, on n'aurait que des cas particuliers. Mais effectivement, si on pouvait faire venir des entraîneurs irlandais ou anglais avec une partie de leur effectif, même 40 chevaux, en France, ce serait formidable. Le problème, c'est que pour les propriétaires, il faut qu'ils passent de nouveau l'agrément. Enfin, de nouveau... En France, en tout cas, l'agrément, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout pour des sociétés. Il y a beaucoup de chevaux en Angleterre qui sont en société. Alors que quand ils viennent courir une fois, de temps en temps, ils n'ont pas besoin d'avoir d'agrément. Ensuite, il faudrait qu'ils retrouvent sur les hippodromes de France Gallo une ambiance qui trouve à Cheltenham ou à Punchestone.
Ils mettent l'ambiance eux-mêmes. Hein. Quand ils viennent à Chantilly l'autre jour, quand la Burke a gagné, ils l'ont fait.
C'est vrai.
Voilà, ils étaient plus nombreux que les turfistes parisiens.
Oui, mais bon, on était dans le désert.
Il
n'y
a pas
là.
Que Noël Georges. Hein. Je veux dire, Marcel Roland, Nietzsche Haas, c'est un propriétaire anglais, je
Michael
crois.
Michael Serrer aussi.
Michael Serrer, July Flower, il a aussi. Régis Midlin qui a gagné sa première course à Auteuil l'autre jour aussi avec pas Terabella mais l'autre là, comment elle s'appelle là. Zut, enfin bon, bref, c'est des propriétaires anglais.
Y a
David Cotin,
oui,
a des
non, mais vous avez raison, Gilles. Il y a une volonté de faire venir effectivement
Lord d'Artsbury, là, Jex, pareil.
Tout à fait, tout à fait. Bah, oui, celui-là, il est oui. Les chevaux de, avec Jacques ici près, Lord d'Artsbury. Oui. Il y a une volonté de faire venir les propriétaires anglo-irlandais et d'essayer de garder les chevaux qu'on vend en France.
C'est possible, ça ?
Bah, c'est possible si les propriétaires veulent rester en France. On a quand même des allocations. On a quand même des allocations, comme dit Gilles, qui sont quand même formidables.
Coquettes.
Oui, coquettes. Donc c'est un élément. C'est pas le seul, mais c'est un élément. Il faut travailler là-dessus. Il faut qu'on ait un vrai département propriétaire. Il faut qu'on évalue ce qu'ils veulent. Ouais. Il faut peut-être segmenter l'offre propriétaire en fonction de chaque communauté de propriétaires. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais c'est pas impossible.
Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans ? Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a 4 ans, je me souviens très bien que lorsque la nouvelle équipe autour de Édouard de Rothschild, et notamment la présidence qui était occupée par celui qui précède à M. Landon, Jacques Détré, lorsqu'ils ont pris les manettes, l'obstacle était déjà un vrai chantier. À tel point qu'on a une réunion à Auteuil et
un séminaire à Tours.
Qu'est-ce qui reste des 4 ans qui se sont écoulés ?
Bah, écoutez,
à part refaire Auteuil.
Non, mais qui n'est toujours pas refait d'ailleurs.
Pour l'instant, c'est un projet.
C'est pas la priorité.
Pour l'instant, c'est un projet. C'est toujours au stade de projet. Qu'est-ce qu'il y a eu
On a mis le programme
à mon sens, pas assez évolué, mais a malgré tout évolué.
On a fait des courtes distances, moyennes distances, longues distances, mais on n'a pas les chevaux pour courir tout.
Est-ce que vous inscrivez justement, je vais revenir à la question de départ, est-ce que vous inscrivez par rapport à ce qui a été fait pour l'obstacle ces 4 dernières années dans la continuité, en allant plus loin, ou est-ce que vous êtes en rupture et ce qui a été fait il y a 4 ans ?
Alors, d'abord, je salue ce qui a été fait. Hein.
Bien sûr, on a compris.
Ça, c'est une première chose. Maintenant, je dis qu'il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et beaucoup, beaucoup plus vite.
Plus loin et plus vite. On va rester
parce qu'il faut, il faut, Dominique, qu'à la fin de la mandature, alors je ne dis pas de retrouver les ratios qui existent, masse d'enjeux plat, masse d'enjeux obstacle, mais au moins d'inverser ces courbes et de retrouver quelque chose qui existait, parce que bon, la contribution s'est quand même effondrée sur la masse d'enjeux. Maintenant, il faudrait que les chiffres soient réétudiés par rapport au slot. On a quand même perdu, l'obstacle a perdu des bons horaires. Donc tout ça, ça compte, puisque vous savez que en fonction de l'horaire, l'espérance de gain et de masse d'enjeux est très différente.
Vous les avez perdus parce que les enjeux étaient moins bons.
Vous avez raison, bien sûr.
Le serpent qui se mord la queue.
Ce qui est à la limite, si c'est au profit du plat. Voilà, il faut. Moi, je pense.
Oui, sauf qu'à un moment.
Je pense qu'il faut voir obstacle et plat, le galop, dans sa globalité.
Je suis 100% d'accord avec vous, Gilles. J'allais vous appeler Laurent encore. Mais
c'est pas grave, Béatrice.
ça me va très bien. Donc,
c'est le Monseigneur.
Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malgré tout, il faut quand même que les courbes s'inversent.
Bon, les courbes s'inversent. En attendant, on a bien compris, vous étiez en plein chantier. En plein chantier. En attendant, vos 50 mesures pour l'obstacle, parce qu'il faudrait qu'elles arrivent.
Je ne sais pas. Je veux simplement.
Non, mais terminer avec toi.
Non, mais les propriétaires anglais qui laissent les chevaux en France, mais à expliquer à Pierre Boulard qui achète pour Willy Munins que les chevaux vont rester en France, non, c'est pas possible. Et quand vous achetez pour Richie, pour MacManus ou.
C'est normal, leurs clients sont anglais, veulent faire courir en Angleterre.
Donc voilà. Là, on peut aller le Grand Dac, peut aller voir ce qui va se passer.
En attendant vos 50 mesures pour l'obstacle, j'aimerais qu'on parle des 50 mesures.
Je ne me suis pas engagé à 50. Hein,
non, mais moi, c'est moi qui le dis, parce que là, vous avez pondu, là, ça a été présenté au comité, au conseil d'administration.
Ils ont retenu 50 mesures.
50 mesures dédiées à la fidélisation, à la prospection. Permettez-moi de vous dire, mon cher Patrick, je suis extrêmement déçu. Rien de nouveau.
Rien de nouveau, je dirais quand même un retour au pragmatisme et au bon sens. Mm-hmm. c'est déjà très important. Stabiliser déjà les propriétaires existants en leur...
On a combien de propriétaires au galop? 4000 ?
On en a pas loin de 5000. Mm-hmm. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup plus de propriétaires...
Mais qui ont de moins en moins de chevaux.
Qui ont voilà. de moins en moins de chevaux en pleine propriété. Et ça va continuer. Parce que c'est le sens de l'histoire.
Et justement, le
Donc
sens
il
de
va falloir accélérer le recrutement de nouveaux
c'est
propriétaires.
C'est ce que je voulais vous dire. Beaucoup plus de petits propriétaires qui auront beaucoup moins de chevaux. Ça nous emmène sur les, sur les groupes de chevaux, les syndicats que les Anglais ont et qu'on n'a pas ici. C'est la législation qu'il faut changer.
Non, mais vous parlez quoi de micropropriété ?
Par exemple,
c'est sur le chantier du plan propriétaire. Mais vous savez que pour la micropropriété, il faut s'assurer que l'AMF
Assurons-nous.
Oui, des discussions existent.
Assurons-nous.
Maintenant, juste pour vous dire, le problème n'est pas seulement les petits propriétaires, Dominique, parce qu'effectivement, les petits propriétaires ont tendance à devenir associés à 4 alors qu'ils étaient en pleine propriété. Mais ce qu'il faut savoir aussi, Dominique, c'est qu'on a perdu, dans les propriétaires de plus de 20 chevaux, on a perdu la moitié de nos
oui.
propriétaires.
Mais cette tendance-là, est-ce que vous pouvez l'inverser?
Donc, en fait,
très franchement, est-ce que vous pouvez l'inverser?
On peut aller chercher des grands propriétaires, en tout cas faire des efforts pour aller les chercher dans les pays où sont ces grands propriétaires. Arabie Saoudite, Qatar, Angleterre. Donc oui, ils existent. Il faut que les courses françaises soient attractives, reconnues dans le monde pour leur compétitivité.
Ce qui est déjà le cas quand même aujourd'hui. Elles sont attractives, elles sont fortes en termes de compétitivité.
Et vous
pensez que c'est juste un problème de communication? On ne l'a pas assez dit, on ne l'a pas assez démontré, qu'on a un déficit à ce niveau-là?
Écoutez,
quelque part
je pense qu'il y a un problème aussi, je pense qu'il y a un problème fiscal, probablement, qui réduit ce nombre de grands propriétaires, entre guillemets. Mais vu l'état des finances de la France, ça va être plus...
Ah, c'est pas maintenant qu'il faut demander un coup de pouce fiscal, c'est pas le moment.
Non,
temps, d'expérience, je vais vous dire une chose, ça n'est jamais le moment.
Voilà, vous avez raison.
Non, ça n'est jamais le moment, donc à un moment donné, il faut le demander.
Donc, si vous voulez, pour aller, il faut en même temps agir sur les propriétaires à forte valeur, donc propriétaires qui peuvent amener, ou qui ont déjà 10, 15 chevaux et qui peuvent peut-être augmenter leur cheptel, en ramener des nouveaux et agir sur des petits propriétaires. En fait, tous les segments doivent être travaillés.
Parce que je me mets dans la peau d'un propriétaire novice. Si je me mets à 3 ou à 4 sur un mauvais cheval, ça va être une expérience déceptive. J'aurai un cheval une fois et rien de bon. En revanche, si je peux avoir une toute petite part à 1000 d'un très bon cheval qu'on a acheté très cher à Deauville, hein, là, je n'aurai pas grand-chose, mais au moins, je vais vibrer sur un bon cheval et je pourrai dire, il est là grâce à moi. Je veux dire, encourager un cheval en valeur 50, vous le savez, vous avez eu la parisienne, hein, ou encourager un cheval en valeur 30, c'est pas le même plaisir quelque part.
Oui, la victoire, qu'elle soit en 30 ou en 50...
Oui, mais on gagne plus souvent en 50 qu'en 30, normalement.
Et la participation, qu'elle soit de 1 pour 1000 ou de 10%
ou
de 50, c'est le plaisir, il est là.
Mmh. Oui, c'est tout à fait juste. Mmh. Il y a des pistes. Déjà, c'est stabiliser l'accueil, la reconnaissance... la célébration des propriétaires existants, parce qu'il y a un vrai déficit.
Philippe Germont, qui était venu ici, vous parlez du parcours client, là c'est intéressant, disait le parcours client est catastrophique. Hein, lorsque vous êtes jeune propriétaire, la seule chose qu'on demande, c'est de l'argent. Et après, vous êtes lâché dans la nature, on demande d'envoyer dossier,
si vous voulez,
un
vous
chèque
dites,
de
quand vous
1000
dites
euros.
Quand vous dites que vous êtes déçu sur le plan propriétaire, justement, c'est pour inverser tous ces aspects négatifs d'un propriétaire qui... va arriver. Ça veut dire que le propriétaire qui va arriver et qui va demander son agrément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire au bout d'un mois? Il appelle le service juridique de France Gallo qui lui dit « Ah ben nous...
nous, on a fait notre boulot, c'est pas la police. »
Aujourd'hui, il n'appellera plus le service juridique de France Gallo. Il appellera quelqu'un au département propriétaire qui saura lui parler et lui expliquer qu'ils font le maximum pour réduire le délai, mais qu'ils n'ont pas tout dans la main. C'est quand même très différent,
à
Dominique.
Condition qu'ils ne soient pas en télétravail, parce que là, vous allez passer trois jours à le l'avoir.
Non, mais Gilles...
S'il est parti chercher le pain pendant qu'il est en télétravail...
Gilles, vous parlez d'un aspect qui est important.
Oui.
Les mesures qui ont été votées sont mesures de bon sens pour simplifier la vie des propriétaires pour qu'ils puissent... leur rester le plaisir. Maintenant, s'ils ont un mauvais cheval, on ne pourra pas faire grand-chose. Il faut des bons et des mauvais.
Non, c'est la communication. Quand vous dites vous appelez France Gallo,
le plan propriétaire,
si vous n'avez rien à faire, vous appelez France Gallo, ça va vous passer deux heures.
Oui, je sais bien. Voilà. Je sais bien, Gilles. Oui.
Mais ça va changer aussi, Gilles. Bah, c'est fini tout
changer,
ça.
Puisque normalement, dans le plan propriétaire, il y a une mesure qui...
Avec un numéro de téléphone dédié où on vous répond.
Voilà, c'est ça. Mais ça avait déjà été un vœu pieux du séminaire de l'obstacle, ce qu'on avait appelé le guichet unique. Ça fait un peu sécurité sociale, je reconnais.
Oui, mais il n'y a peut-être pas d'autre mot. On est d'accord.
Donc normalement, ça devrait l'être. Pour paraphraser ce que dit Gilles, ce qui va être très important, c'est les ressources humaines pour mettre en place ce plan. Ça veut dire des gens qui savent parler aux propriétaires, qui comprennent les attentes d'un propriétaire.
Et qui savent de quoi ils parlent.
Disons, c'est très bien, le plan. Maintenant, la mise en place sera déterminante.
Maintenant, j'ai peut-être manqué un épisode, mais la réception des propriétaires, je conseille aux propriétaires de venir en semaine à Saint-Cloud.
C'est vrai. Mais tu sais que pendant le confinement...
Gilles, un peu plus de détails.
Pendant le confinement, ils n'avaient même pas un café.
Non, mais un peu plus de détails. Mais je veux dire, là, vous allez dans la salle des balances. D'abord, il y a un gars du GTHP qui est à droite, là, quand on regarde les balances. À gauche, là, la barrière, elle était fermée. Parce qu'on ne peut pas mettre deux personnes du GTHP.
Oui.
Bon, alors la première personne qui l'a ouverte l'autre jour, mais comment ça se fait que c'est fermé? C'est le handicapeur. Donc, elle est restée ouverte toute l'après-midi. Donc, la salle des balances, c'est... C'est la cour des miracles, presque. Vous avez les mecs qui hurlent parce qu'il y a une course de trop. Hey, vas-y, le 5, espèce de connard, vas-y, mais tape dessus. Il a tapé ou pas? Je ne sais pas, je suis parti. Mais je veux dire, quand vous avez un propriétaire qui rentre là-dedans, il se dit, oh là là, où suis-je?
C'est vrai.
Mais je vous conseille, moi, Benjamin, Samy, on est tous là, aux courses, en semaine.
Le melting pot a ses limites. Mais
à Saint-Cloud.
Oui.
C'est du 100%.
Juste, Dominique, je voudrais ajouter une dernière chose parce que...
Non, c'est moi qui dirais la dernière.
Votre émission... Désolé, je pensais qu'on avait inversé les rôles. Vous me demandiez ce qui avait changé, donc tout le chantier, etc. Et plus globalement, et je crois que c'est ce que les gens peuvent ressentir, ce que j'ai compris dans l'intervention de Philippe Faucampré, dans l'intervention peut-être de José également, c'est la façon de gouverner qui a changé aujourd'hui. Le président gouverne collectivement, il fait travailler son conseil d'administration, il le consulte, il l'écoute. Le comité également, même si ça a été le premier comité il y a trois semaines, il y a eu une espèce, je vais vous dire, de révolution culturelle.
On est à l'écoute.
Voilà,
on est un peu plus communicant.
C'est très collectif.
C'est vrai qu'écoutant José, écoutant Philippe Faucampré, on avait l'impression qu'avant, on était, pour certains, dans certaines contrées, dans certaines sociétés, ce sera comme ça, et ça risque d'être... Il y a des gens qui sont hors sol. C'est-à-dire qu'ils sont...
Alors, tout ça pour vous dire que le président faisait partie de la commission gouvernance, j'en faisais partie, Nicolas Chamburon faisait partie, Frédéric Landon faisait partie, et on a auditionné beaucoup de gens. Des vice-présidents qui se plaignaient de ne pas être entendus, d'être sous-exploités parce que on zappait les élus. Aujourd'hui, je pense que Guillaume souhaite que les élus et que les opérationnels travaillent ensemble.
On reste à l'écoute. Un mot justement parce que le lien, ce que vous parlez, c'était le défaut de lien entre les instances dirigeantes d'avant et quelques-uns des acteurs principaux des courses. Ça passe aussi par le lien de France Gallo avec le grand public, et vous avez choisi de transformer l'outil informatique. Alors, vos sites, personne n'en est content.
Non, mais laissez les choses un peu avancer. On n'est pas au bout de la transformation du système informatique, puisqu'on a voté au comité le budget, qui est un budget conséquent, c'est 12 millions. France Gallo a sorti en fait du langage informatique propriétaire. Et aujourd'hui, on n'utilisera que des. Bon, je suis pas un spécialiste, donc mes approximations, je m'en excuse. Mais en tout cas, des choses qui sont extractables et qui sont.
Vous parliez tout à l'heure mutualiser certains services entre le trou et le galop. Le trou a fait.
Le trou a fait exactement le choix inverse.
Voilà.
Ils ont choisi de rester sur un langage propriétaire. Donc, pour aller sur l'extérieur, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, notre outil informatique.
Qu'est-ce que vous pensez, vous?
Bah non, mais c'est une vérité.
Okay.
Parlez-en à des informaticiens. Aujourd'hui, le système de France Gallo, pour aller à l'extérieur et extracter des éléments, c'est très compliqué.
Oui.
Donc aujourd'hui, on a abandonné ça. Et justement, c'est aussi... Alors bon, le plan informatique existait avant que Guillaume de Saint-Seine devienne président. C'est un peu aussi la fin de l'entre-soi, cette ouverture du système informatique. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Oui, très bien.
Le trou a choisi l'inverse, de refaire leur système informatique, mais en ayant un langage et des outils propriétaires. Donc, c'est un peu l'entre-soi. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, le trou, par rapport aux propriétaires, puisqu'on parlait du plan propriétaire, les services aux propriétaires sont proches de zéro au niveau du trou. À France Gallo, c'est vrai qu'on peut le trop reproche qu'on est trop.
Mais ils ont plus de propriétaires, paradoxalement. C'est-à-dire que leur truc, vous dites, ils proche de zéro, d'accord.
Oui, mais enfin,
ils ont plus de propriétaires. Mais c'est de la multipropriété aussi.
Oui, peut-être.
Il y a beaucoup de contre-allocations.
Peut-être,
on
mais.
On parlait avec Gilles tout à l'heure.
Soyez propriétaire au trop. Je ne sais pas si Gilles est propriétaire au trop.
Les propriétaires partout, il y a même des livriers en Angleterre.
Non, je suis propriétaire au trop.
Les comptes France Gallo, c'est quand même. Bon, même si c'est comme les feuilles de paye au niveau du nombre de lignes. Mais
c'est un enfer.
Bah,
c'est quand même
un. Ah bah là, de toute façon, ça peut bien aller parce que j'ai frais de tenue de compte 5,40 très régulièrement.
Bah, tous les mois. Tous les mois, c'est le prix.
Voilà, ça, on y va. Ouais, mais je peux vous dire
si
que
vous gagnez une bonne course.
Les cotisations Deauville, les machins et tout, ça y va aussi. Non, moi, je voudrais simplement rebondir sur. On parlait de.
On approche
budget.
Du mot de la fin de Patrick.
Bien sûr, bah, voilà, du budget France Gallo. Je voulais dire, est-ce qu'il y a eu une enveloppe supplémentaire qui était allouée pour le dopage, le contrôle avant course, contrôle à l'effectif, qui sont les seuls, à mon avis, synonymes de réussite
et d'efficacité.
Parce que les contrôles après course, on s'en fout. De toute façon, il suffit de voir Bozio, il était contrôlé positif avant le course, il était négatif après course. Donc après course, on s'en fout. Et on ne sait même pas d'ailleurs si les chevaux prélevés après course font l'objet d'une analyse complète, parce que je ne sais pas combien c'est une analyse complète, urine, machin et tout, toutes les molécules, machin et tout. Voilà. Mais là, quand je lis les décisions disciplinaires, on est revenu sur...
Est-ce que vous êtes favorable à un redéploiement
sur Christopher Head, sur... voilà, il y en a plein. Je veux dire, là, il faut quand même, aller donner un budget conséquent, parce que ce qui est un irritant pour un propriétaire, c'est de pas être à armes égales avec certains entraîneurs, certains propriétaires. Et je mesure mes mots, j'ai des noms dans la tête, il suffit de regarder les résultats. Voilà.
Quand il se met en colère comme ça,
il est comme ça. Mais bon.
Mais surtout le soir. Le matin, il est gentil comme un agneau.
Non, bah là, il est 8h du matin.
Oui.
Bon, non, mais là-dessus, je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il faudrait. Alors, sur le fond, je pense à peu près comme vous. Je pense que les contrôles avant course sont plus efficaces qu'après course. Le budget, il y a quand même un très gros budget, peut-être mal utilisé, oui, pas assez, justement, contrôle avant course ou à l'entraînement. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du
mais
contrôle
anti-doping. Mais vous allez relayer le message.
Mais voilà, je vais relayer le message. Et aujourd'hui, France Gallo, Gilles, est une institution ouverte, donc vous pouvez en parler vous-même avec Henri Pourret ou les gens responsables.
Il sait très bien de ce, Henri, c'est très bien de ce
Patrick,
dont je parle.
Patrick, merci d'être venu à Radio Balance. Le mot de la fin.
Bah, écoutez, le mot de la fin, j'espère que... La mandature de Guillaume de Saint-Seine va nous faire retrouver la croissance et va construire un outil et des courses pour les 40 prochaines années.
Le galop, direction 2075.
Nous l'espérons aussi.
Vous serez là dans 40 ans.
Non, mais on a une activité.
Oui, j'étais déjà là pour les Jeux Olympiques de Paris en
1924, a priori.
On a une activité qui est formidable. J'aurais adoré partager... cette victoire d'Hasta la Vista avec 5000 personnes qui auraient ressenti le même bonheur. Ils seraient très tous devenus propriétaires le jour d'après. Malheureusement, on reste encore aujourd'hui peu dans l'entre-soi.
Bon, on l'a mis dans le Big Five, mais ça n'a pas suffi.
Voilà.
Ça n'a pas suffi. Alors, je regarde quelque chose. Oui, les derniers Jeux Olympiques, effectivement, c'était en 1924.
Oui,
je n'ai pas fourché tout à l'heure.
Mais Gilles était là-bas, oui.
C'est-à-dire que moi, j'étais en 1908, mais je me suis trompé.
1924, c'était la 8e Olympiade. D'accord. La 2e Olympiade, c'était à Paris en 1900, ce que je voulais dire. Je n'ai pas fourché. La première, c'était en 1896. Ouais. Vous n'aviez pas trouvé de billet de train. C'était à Athènes, mon cher Gilles. Vous restez avec moi, Gilles. On va faire
juste
un le plat.
Un mot de la fin, supplémentaire.
Un mot de la fin.
Oui. Si on veut rendre les courses populaires et revenir dans la société, je pense que la mission de la gouvernance, c'est d'emmener tout le monde, aujourd'hui, tous les élus, tous les socio-professionnels, dans la même direction. De ne pas entendre... tout n'est pas parfait, mais essayons de partager ce qui est déjà formidable. Et on peut avoir... Ça coûte d'avoir des chevaux de course souvent,
oui, mais,
ça rapporte énormément de plaisir de temps en temps.
Mais, et puis d'avoir l'ouverture de TF1 sur un vainqueur d'Arc de Triomphe, par exemple.
Pourquoi pas, voilà, ce serait une bonne chose. Pour devenir propriétaire, il y a une solution facile. Vous écoutez les pronostics de Gilles Barbarin. Vous jouez, vous gagnez.
Ah bah non,
vous
mais Gilles donnera une conférence sur le multi.
Le Super 4. Le Z4 parce qu'on est parrainé, on les salue.
Non, parce que Cédric Boutin, il voulait que je crée une école.
Du Super 4.
Bah, c'était
pas
idiot.
Pour les joueurs. Ben oui,
c'est pas idiot.
Je veux dire, de t'avoir.
Je l'ai dit en.
Si je t'avais eu comme professeur, je sais pas si j'aurais été bon à l'école.
Après meeting avec
savoir quand même.
Éduquer les turfistes.
Merci Gilles, vous restez. Merci Patrick.
Merci Dominique.
Merci José Bruno de la salle. Merci à ceux qui étaient avec nous au téléphone. Allez Gilles, on attaque. On commence par l'obstacle, hein. Bien évidemment avec une belle réunion dimanche à Auteuil.
Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.